d'aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Au sommaire de cette édition du mardi 5 novembre 2024, des millions d'Américains votent ce mardi pour décider de qui de Kamala Harris ou Donald Trump entrera à la Maison-Blanche, une élection aux enjeux historiques pour les États-Unis et le reste du monde.
Les gens s'intéressent pourquoi cette année? Parce qu'il y a un président qui veut revenir, une femme pour la première fois, et tout le monde veut être témoin de l'histoire.
Donald Trump est à Palm Beach, en Floride, son état de résidence où il a voté ce mardi. Kamala Harris prend ses quartiers ici à Washington DC où elle assistera à la nuit électorale. À nouveau, bonsoir à tous. Les Américains sont aux urnes pour une élection présidentielle aussi indécise qu'historique entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Kamala Harris a pour colistier le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, 60 ans, et Donald Trump a choisi pour son ticket le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, 40 ans. Plus de 82 millions d'Américains ont déjà exprimé leur suffrage de manière anticipée et le processus culmine ce 5 novembre pour s'achever en soirée. Direction tout de suite le terrain pour retrouver au cœur de la Maison-Blanche notre reporter Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Surveillance maximale à DC autour de la Maison-Blanche.
Effectivement Jean-Roger, ici dans la capitale fédérale Washington DC, des barrières métalliques entourent la Maison-Blanche, le Capitole et d'autres sites sensibles. Beaucoup de magasins du centre-ville ont couvert leurs vitrines de planches de bois. De nombreux commerces ont simplement fermé boutique, craignant sans doute l'issue de cette élection. Le sentiment de peur demeure chez certains comme Elizabeth Hopkins, citoyenne britannique et américaine que j'ai rencontrée dans la cour de la Maison-Blanche.
Je m'appelle Elizabeth Hopkins et j'ai la double nationalité, Royaume-Uni et États-Unis. Je suis assise à Farragut Square et je regarde les barricades. C'est vraiment triste pour ce pays de devoir construire des barricades autour de la Maison-Blanche par crainte de la violence. Il ne devrait pas en être ainsi dans une démocratie. C'est la démocratie, mais ce n'est pas comme ça. C'est la démocratie, mais ce n'est pas comme ça qu'elle devrait être. Comment cela devrait-il être? Tout le monde devrait avoir le droit de voter sans craindre de répercussions de la part du camp opposé et des adversaires.
Yacouba, justement, peu importe le vainqueur de la présidentielle, ce dernier connaît les couloirs de la Maison-Blanche.
Effectivement, Jean-Roger, Donald Trump, pour avoir été président de 2017 à 2021, et Kamala Harris, actuelle vice-présidente de Joe Biden. Dans tous les cas, le verdict des urnes sera historique. Les Américains enverront ici même, peut-être pour la première fois, une femme à la Maison-Blanche, une noire américaine, ce serait une première aussi, Kamala Harris. Sinon, ce serait un comeback historique pour Donald Trump qui reviendrait pour un second mandat. Pour suivre tout cela du près, les deux principaux candidats sont loin de cette Maison-Blanche. La démocrate Kamala Harris, qui a voté par anticipation, organise sa soirée électorale dans son ancienne université, l'institution historiquement noire Howard, ici à Washington DC. Donald Trump, lui, a voté aujourd'hui en Floride, son état de résidence, et sera à Palm Beach pour sa nuit électorale.
C'était Yacouba Ouedraogo depuis la Maison-Blanche, ici, à Washington, D.C. Direction la Pennsylvanie, un état clé où 9 millions d'électeurs sont enregistrés, dont 1 million dans la seule ville de Philadelphie, où nous retrouvons Georges Attineau en direct. Bonsoir, Georges.
Bonsoir, Jean-Roger.
Alors, comment se déroule le vote?
Jean-Roger, je suis devant un ancien garage qui sert aujourd'hui de bureau de vote à Philadelphie, plus précisément dans le Southwest. Ici, l'atmosphère est un bon enfant. En fait, pourquoi ce choix? Parce que c'est le fief de la communauté malienne et africaine ici à Philadelphie. Là, les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures. Les électeurs ont commencé à venir au compte-gouttes. Pas de fil. Il fallait attendre encore plusieurs heures pour voir des files de votants qui attendent pour accomplir leur devoir de citoyen. Ceux avec lesquels j'ai pu échanger, comme Ben Diabaté, parle d'un moment historique. Nous l'écoutons.
C'est vrai, je viens de finir de voter, comme les autres années. Mais cette année, il y a plus de monde. Donc, ce que je constate à l'heure là, je constate qu'à l'heure là, il y a plus de votants que les autres années. Mais l'importance de du vote de cette année, et c'est très très délicat. Les gens s'intéressent beaucoup à cette année parce qu'il y a un président qui veut revenir et une femme pour la première fois et dans l'histoire. Et tout le monde veut être témoin de l'histoire.
Voilà, merci Georges Atineau. Je rappelle que vous interveniez depuis Philadelphie, la capitale historique de l'État de Pennsylvanie. Nous allons maintenant en Virginie, aux alentours de la bibliothèque de la ville de Arlington, non loin de Washington DC, pour retrouver notre reporter Dilly Dico. Bonsoir Dilly, dites-nous quelle est l'ambiance là où vous vous trouvez.
Bonsoir Jean-Roger, je me trouve en Virginie, donc ici l'ambiance est sereine, c'est la pause déjeuner ici, donc en Virginie, un État qui votait républicain et qui est devenu démocrate suite à la victoire de Barack Obama en 2008, donc au cours des quatre dernières élections, et le bureau de vote ici est installé à la bibliothèque d'Arlington, et comme je l'ai dit, l'ambiance est très calme, très sereine. Et les personnes auxquelles j'ai parlé m'ont dit qu'il était en fait important pour elles de venir et de faire leur devoir citoyen et de faire entendre leur voix en votant. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire de l'ambiance ici.
Alors, que disent les électeurs sur leurs priorités, les enjeux de cette élection ?
Alors, les électeurs que j'ai rencontrés m'ont parlé de leurs priorités et ce sont les mêmes priorités, les enjeux de cette élection. En premier lieu, l'économie, car le pouvoir d'achat est en fait un grand sujet, une grande préoccupation pour les Américains en ce moment. Ils sont préoccupés par leur porte-monnaie et par le coût de la vie. Et il faut dire aussi que le marché de l'emploi n'est pas idéal en ce moment. Et une autre des priorités, en fait, c'est la politique étrangère à cause des conflits, des nombreux conflits comme le conflit en Ukraine, mais aussi la guerre à Gaza. Les Américains sont partagés et le camp républicain dénonce les montants qui sont envoyés à Kiev. Les démocrates sont eux décriés par les protestataires pro-palestiniens pour le soutien sans faille à Israël. Et un autre sujet dont les électeurs m'ont parlé, c'est l'immigration. Et l'immigration est une préoccupation pour eux. Et de façon générale, les républicains critiquent la politique migratoire des démocrates, qu'ils qualifient de laxiste. Et les démocrates, de leur côté, accusent les républicains de déshumaniser les migrants. Et enfin, un autre sujet qui fait également couler beaucoup d'encre et qui vraiment montre la division entre les deux camps, c'est le droit à l'avortement, l'accès à l'avortement. Et j'ai parlé ici à Michael et à Alissa et je vous propose d'écouter cet extrait.
Oui, mes priorités sont principalement les droits des minorités, comme les femmes, les personnes de couleur, les LGBTQ. En tant que membre de deux de ces communautés et ayant beaucoup d'amis qui sont aussi des femmes, et en général, j'essaie de me battre pour que les droits des gens à exister et à avoir leur autonomie soient maintenus. Évidemment, sous Trump, beaucoup de ces droits sont menacés. Je suis donc, pour moi, pour mes amis et pour des gens que j'aime et dont je me soucie.
Ma priorité est de préserver le transfert pacifique du pouvoir, mais je me soucie également beaucoup de la solidarité avec l'Ukraine, des droits reproductifs et d'un environnement sain et durable.
Les annonces de vote pour la Virginie seront disponibles dès ce soir, mais il faudra attendre un peu plus longtemps pour connaître le choix des Américains à l'échelle du pays en entier.
Merci à vous, Dilly Dico. Je rappelle que vous intervenez de Arlington, en Virginie. J'ai avec moi en studio Timothée Donangbaye, chef du service français de la Voix de l'Amérique, pour une question technique, puisque Dilly Dico en a abordé quelques-uns. Pourquoi le vote en Amérique n'est-il pas direct au suffrage direct?
Alors, Jean-Roger, comme vous l'avez dit, l'élection du président américain se fait au suffrage indirect. Et pour une raison simple, les pères fondateurs on pensait que si le vote se fait au suffrage direct, les candidats seraient tentés de se concentrer uniquement sur les États les plus peuplés comme New York, le Texas ou la Floride et ils auraient assez de voix pour être élus. Mais avec ce suffrage indirect, les candidats sont obligés de gagner État par État, ce qui fait qu'ils sont obligés de mener campagne même dans les petits États.
C'est une spécificité dont les Américains sont jaloux?
Oui, tout à fait. Les Américains sont jaloux de cette spécificité. Et il y a eu des moments où certains ont décrié ce système, ont même appelé à sa suppression. Mais les conditions pour une telle suppression sont tellement strictes au plan législatif que personne n'a sérieusement osé s'attaquer au problème.
Timothée Donangbay, chef du service français de la Voix de l'Amérique, direction Houston au Texas. Il a beaucoup plu ce matin dans cette ville. La pluie a ralenti un peu les mouvements des électeurs dans le sud des États-Unis, mais ne les a pas empêchés d'aller exercer leur droit de vote et leur devoir citoyen. Et nous y retrouvons notre reporter Nani Talani. Quelle est l'ambiance sur place?
Et oui, Jean-Roger, il a bien plu ici à Houston ce matin et selon la météo, le temps va rester brumeux toute la journée, mais les électeurs ont commencé à se rendre dans les bureaux de vote tard dans la matinée, mais ils sont bien décidés à se faire entendre. Les lignes ne sont pas longues parce que beaucoup de personnes ont voté par anticipation. À l'école primaire de Iliad, où nous nous trouvons, les enfants en classe. L'école reste ouverte suivant de nouvelles règles de ce quartier. La sécurité est donc de mise. Quoi qu'il en soit, le jour d'élection étant fait arriver, offrant aux électeurs du comté de Harris leur dernière chance de voter pour la présidentielle entre Kamala Harris et Donald Trump. De nombreux électeurs, dont des immigrés africains, votent pour la première fois. Et donc, ils veulent que leur voix soit entendue.
Quelles sont les principales préoccupations ou les questions clés qui les motivent à voter, Nanit?
J'ai parlé à plusieurs immigrés d'Afrique et de l'Amérique latine. Tous dénoncent des problèmes tels que l'inflation, l'économie, la sécurité, l'accès aux soins de santé, le manque d'emploi qui minent leur existence et ces questions rendent difficile leur vie quotidienne. Le climat d'insécurité est particulièrement préoccupant dans les quartiers urbains ici à Houston et les citoyens attendent des solutions concrètes.
Quelles sont les principales causes locales et régionales à Houston qui attirent l'attention des électeurs en plus de la présidentielle?
Ici à Houston, les électeurs se prononcent également sur d'importantes propositions de loi et sur plusieurs autres courses locales et régionales. Au Sénat, par exemple, les électeurs devront choisir entre le sénateur sortant Ted Cruz et le démocrate Colin Allred dans une course plus disputée que prévue. Et dans le district 18 de la Chambre des représentants, les électeurs choisissent entre l'ancien maire Sylvester Turner et Lara Cantanzé qui prendra la relève à la suite du décès de Sheila Jackson Lee en début d'année. Voilà, c'était Nani Talani depuis Houston pour VOA Afrique.
Merci Nanit. Nous revenons en studio avec Timothée Donangbay, chef du service français de la VOA. On parle beaucoup de commissions électorales en Afrique. Quel rôle joue la commission électorale ici, si elle existe?
Alors, il y a ce qu'on appelle la FEC, la Federal Electoral Commission, l'équivalent de la commission électorale, mais elle a un rôle beaucoup plus de contrôle des activités électorales. C'est elle qui enregistre, par exemple, les candidats à la présidence. C'est là-bas que les gens vont se signaler qu'ils vont être candidats à la présidence. Mais l'organisation même des élections est très décentralisée du fait de la structure fédérale des États-Unis. Chaque État organise ses élections à sa façon, avec ses règles. Mais évidemment, il y a des règles générales, fédérales, auxquelles toutes les autres lois doivent se conformer.
Alors, sur le continent, on parle souvent des observateurs internationaux pour voir si l'élection a été intègre. Est-ce qu'ici, il y a des observateurs internationaux?
Alors, en pareil cas, il y a toujours des gens qui viennent, des visiteurs qui viennent d'Afrique, d'autres pays du monde, pour voir comment se déroulent les élections ici aux États-Unis. Évidemment, ils sont libres de faire leurs observations, mais ce n'est pas comme en Afrique où on compte beaucoup sur ces observateurs pour nous assurer que tout se passe bien ici aux États-Unis. Chaque État observe rigoureusement la loi en ce qui concerne les élections, aussi bien qu'il n'y a pas tellement de soucis de ce côté.
Timothée Donangbay, chef du service français de la Voix de l'Amérique. Édition spéciale, élection aux États-Unis, la diaspora africaine se sent aussi très concernée, impliquée par cette élection. Brice Moumi, journaliste culturel et ressortissant de la diaspora camerounaise à Atlanta, nous a décrit l'ambiance dans la ville ce matin à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote dans l'État clé de Géorgie.
L'ambiance est un peu très timide, c'est le climat un peu qui n'est pas favorable parce que ce matin il fait extrêmement froid et autres. J'imagine que bon voilà, après cela, aux environs de midi par là, puisque voilà c'est à midi parfois que ceux-là qui sont allés au travail prennent les pauses, les uns et les autres iront voter. Mais aussi dans certaines structures de la place, il y a certaines structures de la place qui ont quasiment fermé pour la demi-journée. Ils ont donné ce devoir à ceux-là qui n'ont pas pu voter, voilà, d'aller se rendre dans les bureaux de vote pour aller voter. C'est un peu ça la tendance de l'élection présidentielle.
Est-ce que vous avez voté ou prévoyez voter, Monsieur Moumi?
Je prévois voter parce que actuellement où je vous parle, je suis en chemin et en même temps je suis en train de sillonner les endroits de la ville d'Atlanta pour voir comment ça se passe et autres quoi.
De manière générale, comment voyez-vous l'issue de cette élection?
Ma façon de voir ces élections, j'ai surnommé cela le suspense, un peu comme dans les films où on se dit à quel moment on doit arrêter le chevalier, comme on le dit au quartier. C'est le suspense parce que, bon voilà, à la fin, on se dit, est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est Kamala? Est-ce que les États-Unis sont prêts à accepter une femme à la tête en tant que présidente? Et Trump, si Trump revient, est-ce que l'économie doit basculer ou pas? C'est du suspense. On se dit, ben voilà, c'est vraiment du suspense.
Le journaliste Brice Moumi, journaliste joint donc dans la ville d'Atlanta, il a été joint par Alexandrine Ollognon. Les électeurs affluent de partout pour le scrutin présidentiel aujourd'hui. Eddie Sango a joint un électeur à Belleville dans l'État du Michigan, Patrick Chabani.
J'ai voté ce matin, donc c'était quand je suis arrivé à la place. J'ai vu, ils ont amené un DJ qui jouait la musique, il y avait les gens qui étaient qui dehors, qui faisaient les dernières campagnes, cherchaient à convaincre les gens à voter, à qui voter, le président et tout ça. Alors, en tout cas, on est arrivé, je suis arrivé à l'intérieur, j'ai trouvé des gens qui votaient déjà avant moi et on a demandé des informations. En tout cas, c'était calme. Moi-même, le procédure de vote, pour que je vote, ça m'a eu environ 15-20 minutes, c'était rapide quand même. Les immigrants qui viennent, ils sont là, ils sont nombreux, comme vous le savez. On vote, on cherche à voter les gens qui vont permettre une assimilation facile des immigrants ici aux États-Unis. Donc tout ce qui va favoriser les immigrants, c'est le candidat qu'on cherche à voter. Donc c'est ma première fois de voter à l'élection présidentielle parce que j'ai à peine reçu ma citoyenneté avant la pandémie. Donc c'est en 2018-2019 que j'ai reçu ma nationalité. Donc c'est vraiment ma première élection présidentielle.
Et qu'est-ce que ça t'a fait voter comme ça, comme citoyen américain et même le président des États-Unis?
Non, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que moi, je suis quelqu'un qui étudie l'histoire. Et quand tu regardes bien dans l'histoire, il y a les gens qui n'ont pas voté parce qu'ils ressemblaient à cause de la couleur de leur peau, ou bien parce qu'ils étaient femmes et tout ça. Mais il y a les gens qui sont battus pour qu'aujourd'hui, les personnes qui sont comme nous peuvent voter. Donc, je raisonne toujours à des choses pareilles.
Patrick Chabani, électeur américain originaire de la République démocratique du Congo à Belleville dans l'État du Michigan. Les Africains suivent, je l'ai dit, de très près l'élection présidentielle entre Donald Trump et Kamala Harris. Jeannette K. Le Guil, d'origine ivoirienne, résidant dans le Maryland, fait partie des électeurs qui ont voté avant le jour du scrutin. Elle est actuellement à Abidjan.
En Côte d'Ivoire, les élections américaines suscitent un vif intérêt en raison des liens diplomatiques et économiques entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, qui sont vraiment très bien. Les Ivoiriens perçoivent ce scrutin comme ayant un impact significatif, non seulement sur les politiques nationales et internationales des États-Unis, mais aussi sur celles qui concernent directement l'Afrique. Les médias locaux suivent de près aussi les évolutions de la campagne et les débats publics témoignent d'une prise de conscience croissante des enjeux mondiaux, particulièrement parmi la jeunesse ivoirienne.
En tant que citoyenne américaine, quelles sont vos priorités?
Mes priorités incluent les droits des femmes, c'est-à-dire assurer que chaque femme ait le droit de prendre des décisions concernant son propre corps, y compris en matière de santé reproductive. Je mets aussi l'accent sur la paix mondiale, promouvoir des politiques étrangères visant à réduire les conflits et à encourager la diplomatie. La troisième priorité, réduction des inégalités. Donc j'attends vraiment une mise en place des politiques économiques et sociales qui offrent des opportunités équitables à tous.
La campagne électorale a été très tendue cette année. Selon vous, quels sont les points forts et les points faibles des deux principaux candidats?
Selon moi, il y a eu des points forts et des points faibles des deux principaux candidats. Kamala Harris est une femme d'une grande intelligence, ayant mené une carrière professionnelle et politique remarquable. Elle a travaillé en étroite collaboration avec le président Biden, un fin connaisseur des politiques nationales et internationales. Un atout considérable. Cependant, je pense qu'elle n'a pas su pleinement tirer parti de cette alliance. Kamala s'est parfois montrée inconstante dans ses prises de position, donnant une image de manque de cohérence tout au long de la campagne. Toutefois, elle a mis l'accent sur les droits des femmes, en particulier le droit à l'avortement, mais sans souligner d'autres formes de discrimination, notamment celles touchant les femmes de couleur, qui réclament un vrai pouvoir social et économique. S'agissant de Donald Trump, il s'est préparé activement pour se présenter devant les Américains et regagner leur confiance. Certes, son passé a été marqué par des controverses, des discours polarisants et préoccupants. Cependant, sa campagne semble cette fois-ci plus structurée et il semble davantage être à l'écoute des préoccupations des groupes vulnérables, affirmant partager leurs défis quotidiens.
Jeannette Carl-Gill, électrice à Silver Spring, dans le Maryland, elle répondait aux questions de Nathalie Barge. Pour la première fois, Philmonde Douchmi, d'origine burundaise, est maintenant citoyen américain, a exercé son droit de vote dans l'État du Maine. En partageant l'importance qu'il accorde à ce devoir citoyen, il explique également comment il soutient d'autres membres de sa communauté dans l'accomplissement de leurs devoirs. Il est au téléphone avec Eric Manirakiza.
Moi, c'est un sens vraiment élevé parce que chaque voix compte. Et le fait de voter pour moi, je considère cela comme ma façon de participer dans cette démocratie américaine, mais aussi ma façon de donner ma voix à ce que j'aimerais voir s'accomplir dans ma communauté.
Vous aidez également d'autres personnes à accomplir ce devoir citoyen. Voudriez-vous nous parler de ce que vous faites exactement? En quoi vous les aidez?
Ici où je vis, dans l'État du Maine, nous avons beaucoup de communautés des immigrants, notamment la communauté burundaise, c'est-à-dire les gens qui viennent du Burundi, qui habitent ici, qui ont déjà aussi et aussi son droit de voter. Donc j'essaie de les sensibiliser et de les encourager, leur montrer que c'est vraiment très important de s'exprimer en votant parce que c'est un droit, mais aussi quelque chose que je considère aussi comme un devoir de ma part, donc je les encourage et j'aide aussi avec un peu de logistique pour parce qu'il y a des gens ici qui nous avons déjà ici qui sont plus ou moins âgés, bon, des femmes, des hommes qui peut-être n'ont pas un moyen de transport, de déplacement, donc je les aide, je vais chez eux, je les prends pour les emmener aux urnes. Et aussi, j'essaie d'organiser le transport pour que ça puisse être facile pour tout le monde de voter aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de voter pour le président de la République, le président des États-Unis, mais aussi, on est en train aussi de voter pour un certain nombre des représentants, que ce soit au niveau du Parlement ou au niveau du Congrès. Donc, même au niveau local, il y a vraiment autant de gens qui sont en train de se faire élire. Donc, tout ça, ça demande vraiment une explication de la part de quelqu'un, quelqu'une qui n'est pas habitué.
Philmonde Douchmi, électeur et mobilisateur communautaire à Portland dans l'État du Maine.
participez à notre magazine interactif À votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Élection présidentielle américaine 2024, la présidentielle en tout cas. Avant de nous quitter, avant de clore cette session d'information, nous allons poser quelques questions utiles à Timothée Donangmaï, le chef du service français de la Voix de l'Amérique. Timothée, à quelle heure les bureaux ferment, étant donné que les États-Unis ont trois fuseaux horaires?
Voilà, donc la fermeture des bureaux varie en fonction des fuseaux horaires. Les derniers bureaux à fermer sont naturellement sur la côte ouest, notamment la Californie et l'Oregon, et ce sont les derniers à fermer.
Alors, à leur meeting, les deux candidats ont proposé une vision de l'Amérique presque irréconciliable. Alors, est-ce qu'on est en droit ou on peut craindre qu'il y ait des troubles?
Il y a quand même quelques soucis de ce côté, et surtout au vu de la situation en janvier 2021 avec cet assaut sur le Congrès. Donc il y a quelques soucis, et comme vous l'avez souligné, les deux principaux candidats ont deux visions diamétralement opposées de l'Amérique, donc ça laisse quand même craindre quelques petits problèmes. Mais il est clair que les services de sécurité, à commencer par la police fédérale, le FBI, sont sur pied de guerre, sont un peu partout déployés et sont prêts à intervenir en cas de souci.
Alors, sur le plan légal, les deux camps ont engagé des dizaines d'actions en justice, déjà avant même que les résultats ne soient proclamés. Ça augure d'une vraie bataille.
Et tout à fait. Et comme vous l'avez souligné, ici, les tribunaux sont très présents dans l'activité électorale. Et c'est eux qui garantissent le respect scrupuleux des lois en matière électorale. Donc, les candidats, c'est aussi stratégique, très souvent saisissent les tribunaux pour tel ou tel aspect des élections. Et évidemment, c'est pour maximiser leurs chances de succès aux urnes.
Alors, à quel moment peut-on s'attendre valablement à des résultats dans ce scrutin américain?
Alors, Jean-Roger, ainsi que l'a dit une intervenante interrogée par nos reporters sur le terrain, Dieu seul sait, parce que les deux principaux candidats sont au coude à coude, si bien qu'il est difficile de voir comment les choses vont rapidement se conclure. Et il faut dire que les lois les États ont différentes lois, notamment en ce qui concerne le vote anticipé. Certains États comptent ces votes avant le jour du scrutin, d'autres les comptent après ou pendant le jour du scrutin. Et donc tout cela va un peu faire traîner les choses. Et il y a aussi, n'oublions pas les votes des Américains de l'étranger, les votes des militaires qui sont déployés à l'étranger. Tous ces votes-là doivent être comptabilisés scrupuleusement pour pouvoir donner un résultat fiable.
Timothée Donangmaï, chef du service français de la Voix de l'Amérique, merci pour vos éclairages. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la présidentielle américaine. Avec le vote aujourd'hui même, le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïma, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.